Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Le fruit des rois, donc un fruit de luxe, un fruit, le fruit noble, hein, qui sont fondants en bouche.
Et... Chair fine, se dit des poires excellentes, beurrée et fondante, et celle qui se fond en effet dans la bouche, pour peu qu'on la mâche.
On va faire une poire belle-hélène. C'est pas le dessert le plus sexy du monde, parce que la poire, tout le monde n'aime pas ça, étonnamment.
Chair cassante, se dit des poires qui sont fermes, sans être dures, et qui font une manière de bruit sous la dent.
Mais voilà, en cette saison, la poire, elle est quand même juste géante.
Vous n'avez pas une autre recette ?
Si, j'en ai d'autres. On peut faire aussi des poires confites aux épices, par exemple pour servir avec du gibier, avec des canards.
Attention, la poire est un fruit fragile. Dans la vie, il y a les forts et les poires.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau transformé en verger en ce dimanche. Comice, conférence, mais aussi comtesse de Paris ou encore épine du mât, on vous en met plein la poire aujourd'hui. La poire ou le destin d'un fruit délicat, aristo sur les bords, qui fut le péché mignon de Louis XIV, qui fut la passion de nos grands-parents et de nos parents, mais qui se fait malheureusement de plus en plus rare dans nos corbeilles de fruits. Tenez, deux chiffres assez alarmants, la surface de nos vergers de poirier a reculé de 67% en 21 ans, et 56% des acheteurs de poires ont plus de 60 ans. Il faut sauver la poire, c'est le cri du cœur que nous lançons en ce dimanche avec nos deux invités. Bertrand Puel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur de poires à Chambourcy. On est dans les Yvelines, Chambourcy, un ancien terroir pour les fruits en général et la poire en particulier, dont vous êtes, je crois, l'un des derniers défenseurs. Vous allez nous raconter... Non ?
Le dernier.
Ah, le dernier, carrément. Vous êtes le dernier. Approchez-vous de votre micro, n'hésitez pas, cher Bertrand. Vous allez nous raconter, effectivement, le destin incroyable de ce terroir aux portes de Paris, où vous cultivez encore, en agriculture biologique, d'anciennes variétés locales notamment. Et vous transmettez même votre passion de la poire au club du PSG, vous allez comprendre dans un instant. Pauline Labrousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cuisinière au fourneau de Coucou, un coffee shop, c'est comme ça qu'on dit ?
Ouais, ouais.
Un restaurant, ça fait un peu tout, y compris le petit déjeuner, le brunch.
Un coffee shop, tout, ouais.
C'est ça, 9e arrondissement de Paris. Vous y faites une cuisine gourmande, ouverte d'esprit, assez végétale. Et en ce moment, pour couper la poire en deux, ou en quatre, ou en cinq, eh bien, vous nous avez apporté de très très belles recettes. C'est la poire dans tous ses états et tous ses éclats, dans des recettes sucrées et salées que vous avez spécialement préparées pour nous. Et j'aperçois notamment une tarte tatin de poire, version salée.
Mmh.
Elle est belle.
Au fromage et au pignon et à la sauge.
J'en connais quelques-uns qui vont l'attaquer direct. Et puis nous allons aussi, chers auditeurs, vous faire découvrir aujourd'hui un étrange rituel, celui de la poire tapée. Notre reporter Stéphane Combe est parti dans le Val-de-Loire à la rencontre de Christine Hérin, l'une des dernières artisanes à maîtriser ce savoir-faire qui consiste à sécher, aplatir les poires pour les conserver. Et puis aujourd'hui, on se fend la poire avec nos deux invités, nos deux chroniqueurs du jour, pardon, notre chroniqueur vin Antoine Gerbel et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Antoine.
Pas d'affront ce matin, cap sur Domfront, cap à l'ouest, la capitale de la seule AOP de Poiré, le Poiré d'Onfront.
Domfront, on est dans la Manche, Cotentin,
exactement.
Normandie,
Éric. Eh bien, un acronyme HVE comme haute valeur environnementale, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Ça fait du bruit en ce moment, votre plaidoirie dans le courant de cette émission. Si vous avez des questions sur la poire, si vous avez une super recette à nous confier, interagissez dans l'émission via notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou via le bouton intervenir depuis l'appli mobile de France Inter. Toutes nos recettes, nos infos et le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour moi, la cuisine, c'est ma mère, c'est ma jeunesse, c'est des odeurs, c'est une ambiance, c'est un goût de la nouveauté aussi. Il faut qu'on soit toujours en permanence en recherche de nouveaux goûts, de nouveaux plats. Pour remettre en question, comme dans beaucoup de métiers, qu'on le considère un métier de l'art, et comme dans tous les métiers de l'art, il faut inventer et remettre en question.
C'était une des dernières gloires de la nouvelle cuisine que l'on entendait dans cet extrait de l'émission La Grande Cocotte sur TF1 en 1976. Pierre Troisgros s'est éteint à Roanne mercredi dernier à l'âge de 92 ans, un an et demi seulement après la mort de son grand copain Paul Bocuse. Et c'est avec sa disparition évidemment une des plus belles pages de l'histoire de la gastronomie française qui se tournent. Pierre Troisgros, c'était évidemment la moitié des frères Troisgros. Avec son frère Jean, il a formé un duo de choc qui a hissé le restaurant familial situé face à la gare de Roanne dans la Loire, au zénith de la gastronomie mondiale. Troisgros, ce fut aussi, pendant plusieurs décennies, ce lieu de pèlerinage où on venait s'attabler depuis partout dans le monde. Les gourmets du monde entier allaient s'attabler chez Troisgros, notamment pour le fameux saumon à l'oseille. Alors tout a été dit et écrit sur cette création percutante, 1962, qui alliait le gras d'une escalope de saumon cuite rose à l'arête et l'acidité d'une crème à l'oseille. Et à partir des années 70, on s'est même emparé de cette recette dans les foyers. Ma mère, par exemple, mais j'imagine que la vôtre aussi peut-être, cuisinait du saumon à l'oseille le dimanche et avait même planté de l'oseille dans le jardin. Pauline Labrousse, cette recette, elle vous inspire ?
Oui, j'adore l'oseille avec l'acidité que ça apporte et avec la richesse du saumon, c'est un contraste qui marche vraiment hyper bien. Donc, ça m'étonne pas que ce soit une recette qui a marqué l'histoire de la cuisine.
Absolument. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que ce plat d'une grande modernité a aussi permis de faire évoluer le service à l'assiette. Figurez-vous que chez Troisgros, l'escalope de saumon était vraiment aplatie, avec une batte, façon un peu piccata de veau. Elle faisait la taille d'un rectangle d'environ 15 cm par 10 cm de côté. Et il a fallu faire spécialement fabriquer par un porcelainier, d'ailleurs c'était un porcelainier local, un plat de 32 cm de diamètre. Vous imaginez, c'est à peu près la taille d'une pizza napolitaine, alors qu'à l'époque, les plus grandes assiettes mesuraient environ 28 cm de diamètre. Et autre innovation générée par le saumon à l'oseille, ce sont les couverts de dégustation. Le couteau à poisson, il permettait de couper la chair du saumon, mais il n'était pas très adapté pour ramasser la sauce. Et du coup, la famille Troisgros a réfléchi à un ustensile qui permettrait de déguster en même temps le saumon et la sauce. Et ils ont inventé une cuillère pas trop creuse, qui n'abîmait pas trop les chairs du poisson et qui permettait comme ça de récolter cette savoureuse sauce crémée à l'oseille. Et c'est comme ça que et la grande assiette et la cuillère à sauce ont vu le jour à Roanne. Voilà. Pierre Troisgros s'en va, mais le nom Troisgros rayonne encore dans le monde entier et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque Michel Troisgros, comme vous le savez, et son fils, qui est le fils de Pierre, et César, le petit-fils de Pierre Troisgros, entretiennent le flambeau de cette maison 3 étoiles qui a déménagé à la campagne il y a quelques années, à Ouche, à quelques kilomètres de Roanne. Je vous sens ému.
Oui, j'ai des souvenirs fantastiques. J'ai fait les deux adresses. Et puis, juste un petit point sur le vin, parce que il y avait un amour du vin. Pierre Troisgros a fait vraiment les grandes heures d'une sélection à une époque où on n'avait pas beaucoup de vin. Il s'est impliqué dans des clubs de dégustation pour amateurs. Il avait vraiment eu un ressenti, avec Bocuse d'ailleurs, il avait un ressenti pour le vin. Et la cave de était magnifique. Alors, j'avoue un péché mignon, comme ce sont beaucoup de Lyonnais et de Rouennais qui viennent manger, il y a une cave de Bordeaux qui est incroyable à des prix très sages. Je me souviens d'un magnum de Ménet Saint-Etienne 62 à un prix défiant toute concurrence.
Voilà, donc on peut aller boire du Bordeaux aussi à Rouen si évidemment on en a les moyens. Nos sincères condoléances en tout cas à la famille Troisgros au nom de toute l'équipe dont on va déguster. Cette émission est réalisée par Laurent Thomas avec à la technique Fabrice Desmaz, Margot Page à la préparation, la poire au menu dont on va déguster juste après Dingue qui signe le retour de Dany après 10 ans d'absence. C'est un titre de la playlist choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Je vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Inter.
Je suis dingue, tout le monde dit que je suis dingue, mais il y a que toi qui me distingue, oui, de tous les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues, où je monte à fond la bastringue, de Paris à Saint-Domingue. Tu vois, je suis dingue, tout le monde dit que je suis dingue, je mets ma robe en meringue, quand je suis la bringue, je suis la bringue. Regardez ma vieille carlingue, certains la trouvent un peu ringue, mais ma carlingue, j'en suis dingue. Oui, même quand elle se déglingue, tu vois, je suis. We'll be right back.
J'aime en premier lieu celles qui ont la chair beurrée, tout au moins tendre et délicate, avec une eau douce, sucrée et de bon goût, et surtout quand il s'y rencontre un peu de parfum. En second lieu, à défaut de ces premières, j'aime celles qui ont une chair cassante, avec une eau douce et sucrée et quelquefois un peu de parfum. En troisième lieu, je fais véritablement cas de celles qui ont un assez grand parfum, mais dont la chair n'est pas extrêmement dure, pierreuse et pleine de marre. Peut-être avez-vous reconnu ce témoignage, Bertrand Puel ?
La Quintini ?
Bravo, c'est un extrait des écrits de Jean-Baptiste de La Quintini, qui était le jardinier de Louis XIV, célèbre notamment pour avoir dompté la poire dans le potager du roi au cœur du château de Versailles. On dit souvent que La Quintini, Bertrand Puel, a beaucoup fait pour la poire. On lui prête notamment d'avoir perfectionné ce qu'on appelle la taille en espalier.
Mais vous venez de le dire, il l'a dompté. Parce que c'est vraiment ça.
C'était
c'est
un fruit réputé indomptable.
Compliqué, très compliqué. Et à une époque où on aimait bien les choses très sophistiquées, lui, il a vraiment, vous venez de le dire, il l'a dompté en fait.
Il l'a dompté.
Voilà, on parle de fruits domestiques, la poire est très domestiquée.
C'est ça. Le siècle de la poire en France, c'est vraiment le 16e siècle. Et c'est dans cette période de l'histoire de France que la poire a acquis un peu un statut de fruit royal, de fruit précieux, presque aristocratique. Est-ce que c'est caricatural d'affirmer que la poire serait un fruit aristocratique par rapport à la pomme qui serait un fruit populaire et paysan ?
Un peu.
C'est un peu ça ?
C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Comment vous l'expliquez ?
Comment je l'explique ? La poire au 19e, c'est plutôt, suite aux travaux de La Quintini, c'est plutôt une activité de noble. C'est une époque où on aime bien les cabinets de curiosité.
Oui.
Mmh. Donc les nobles ont ce qu'on appelle un clos,
mmh.
et où on a des collections de poires. On a les poires à couteau, les poires à cuir. Il y a une sorte de poire qui n'existe plus, c'est même les poires à peindre.
Les poires à peindre.
Les poires à peindre.
C'est-à-dire ?
Parce qu'elles sont jolies.
Uh-huh.
C'est-à-dire qu'on fait vraiment des collections. Et on expose son verger.
C'est ça.
Voilà.
Oui, donc c'est on est quasiment dans une dimension ornementale en fait
aussi, mais en tout cas au 19e pas encore vraiment professionnel pour en faire un grand commerce.
J'évoquais la taille en espalier avec ces formes incroyables lorsque l'on conduit la taille d'un poirier que l'on peut donner à l'arbre qui peut grimper avec des dessins très graphiques sur un mur ou une façade. Mm-hmm. Ça évidemment joué dans cette réputation aristocratique de la poire.
Eh ben de dresser, ça c'est suite aux sélections aussi, mais de dresser, de conduire. Hein, c'est des mots qu'on emploie à l'époque, qu'on emploie encore. On dresse un arbre, on le palisse, on lui fait prendre des formes pas possibles. Le poirier s'y prête bien,
mm-hmm.
Contrairement au pommier.
C'est ça.
Voilà.
Pauline Labrousse, la poire est aussi réputée fragile, délicate, tant par sa texture assez fondante ou croquante, que par son parfum. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique ce côté précieux de la poire ?
Oui, sans doute, ouais. Il y a quelque chose de très floral qui la rend délicate, en tout cas par rapport à la pomme, puisqu'on compare un peu souvent les deux. Il y a un côté peut-être plus bonbon dans la poire et aussi plus juteux. Une jutosité qui est, quand c'est vraiment bien mûr, qui est caractéristique, et je pense peut-être que c'est ça qui fait que les gens l'ont longtemps trouvé plus sublime d'un certain côté et moins sauvage peut-être que la pomme qui est plus brute, plus dure, plus rustique, ouais.
J'évoquais justement des chiffres qui montraient un recul de la poire dans sa consommation. On accueille moins facilement la poire dans notre corbeille de fruits. Est-ce que c'est lié justement à sa fragilité, le fait que ce soit un peu compliqué à éplucher ? On a fait un petit test comme ça avec notre réalisatrice Laurent Thomas vendredi en demandant « Est-ce que vous aimez la poire ?» etc. Et beaucoup nous répondent « Bah, c'est un peu compliqué à éplucher, on s'en met plein les doigts, c'est juteux, c'est un peu poisseux. » Alors qu'une pomme, finalement, on va dire que c'est plus fonctionnel dans la dégustation, entre guillemets.
La dégustation de la poire, c'est un petit peu comme la conduite du poirier. Mmh. Ça demande pas mal de connaissances, et des connaissances qu'on n'a plus. Une poire, 3 jours avant, c'est pas bon. 3 jours après, c'est plus bon. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de déboires avec les poires, qu'on n'a pas avec la pomme. La pomme, on en met trois dans la poche d'un gamin, il les mange n'importe quand. Pas la poire. Non, ouais. il faut une assiette, on l'épluche.
Fruit délicat. Très délicat. Et pourtant, vous êtes un résistant de ce fruit.
Oui.
À Chambourcy, dans un lieu historique de la poire.
Parce qu'on a toujours fait ça à Chambourcy.
On est aux portes de Paris. Racontez-nous le destin incroyable de cette commune des Yvelines qui s'est tournée vers la poire il y a des siècles et des siècles.
Je crois que c'est plutôt le 19e.
Ah, pardon.
Hein. Alors, il y a certainement eu, même suite aux travaux de la Quintinie, mais l'essor de la poire, c'est fin 19e, 20e, ça s'est vraiment emballé, jusqu'au déclin dans les années 70-80.
Mm-hmm. Et pourquoi à Chambourcy précisément ?
Alors à Chambourcy, on a un terroir très particulier pour la poire. On est sur un coteau.
Mm-hmm.
On est sur un coteau nord. Ce qui veut dire que la fleur arrive 2 semaines plus tard qu'en plaine.
Mm-hmm.
On est sur un coteau froid, donc ça fleurit plus tard. L'intérêt de la floraison tardive, c'est que ça gèle moins. Les gelées printanières, les fleurs sont pas encore vraiment sorties. Le coteau qui fait que l'air froid des gelées printanières s'écoule plus facilement. On parle de alors il y a aussi les couloirs de grêle. J'ai jamais vu de grêle à Chambourcy. Jamais.
Donc vos poires sont protégées à l'abri.
Alors, j'en ai vu ailleurs. Hein. Est-ce que c'est une question de chance? Je sais pas. Mais on peut parler d'un endroit chanceux.
C'est ça.
Après le sol, c'est sableux. Ça draine bien. Les maladies n'y restent pas très longtemps. Voilà. Et puis la qualité gustative.
Oui.
Aussi.
Ben ça, on va le vérifier puisque vous nous avez apporté des échantillons des poires de votre verger. Je crois que vous pratiquez ce métier de génération en génération dans votre famille.
Mes grands-parents était arboriculteur.
Mais ne me dites pas que vous êtes le dernier producteur de poires à Chambourcy tout de même.
Je suis le dernier.
Ah, bon.
Oui.
D'accord, on va vous dorloter alors.
Personne s'y est collé en tout cas.
Personne s'y est collé. Petit inventaire à la Prévert des quelques variétés qu'on a
alors, sonné. Je vous ai amené des variétés comme Comis.
Ouais.
Comis, ça c'est quand même la plus connue. Hein, c'est à mon avis la plus délicate, mm-hmm. mais aussi délicate pour tout. L'arbre est très compliqué, le fruit est très compliqué, la taille est compliquée, tout, la conservation aussi.
Et voilà. C'est l'une des variétés les plus connues.
Oui, ouais. Parce que c'est la meilleure à mon avis. Hein.
Très bien, c'est dit.
parmi les fruits d'Aristo, c'est l'Aristo. Hein, c'est...
Vous êtes d'accord, Pauline, ou pas sur la Comis?
Ouais, la Comis est à la fois en texture juteuse, ce que je disais tout à l'heure. C'est très important, je pense, pour la poire. Et très savoureuse, avec du sucre, mais aussi des parfums d'arbres, de fleurs, de verres, qui sont très agréables.
Très bien. Autre variété ?
Autre variété. Alors, une poire qui a complètement disparu, c'est la Pascrassane. C'est une très tardive, qu'on cueille en octobre et qu'on peut consommer à partir de janvier. C'est vraiment la poire d'hiver. Alors, celle-là, elle a disparu. Il n'y en a plus.
Ouais.
Elle est très particulière parce qu'on peut aussi y trouver des petits grains dedans.
Ah, elle est granuleuse.
Elle est un petit peu acide, astringente.
Vous me la passez, je peux mettre un coup de canif dedans?
Non. Là, je viens de l'accueillir.
Ah, donc elle est trop dure.
C'est vraiment trop dur.
C'est
la poire, c'est un puits de garde.
Oui. Alors, justement, la saison de la poire, on parle de fruits d'été, mais il y a également des fruits d'automne et d'hiver, puisque là, vous venez de prononcer une expression importante. La poire est un fruit de garde. Mm-hmm. Est-ce à dire que, vous la conservez et vous la vendez, dans une période très étalée?
Alors, on ne cueille pas de poire mûre.
C'est ça.
Jamais. Jamais.
Elle mûrit dans vos caves.
Elle mûrit, oui. Elle mûrit, on l'affine. C'est un petit peu un travail de... Alors ça, c'est aussi des techniques qu'on connaît plus trop. Mais il y a toute une technique d'affinage, mm-hmm. un petit peu comme les fromagers.
Oui. Hein,
pour amener une poire qui soit pas forcément prête à consommer. Parce que on trouvera pas sur les marchés de poire prête à consommer. Uh-huh. Une poire prête à consommer, ne serait-ce que de la mettre dans un sac, un craft, la mettre dans un cabas, mm-hmm. elle arrive chez vous... Elle est complètement marquée.
C'est ça. Et elle noircit très vite.
Elle noircit comme celle-là.
Pauline Labrousse est en train d'arborer une poire qui a pris cher. Un petit peu noircie, un peu oxydée. On va continuer, évidemment, Bertrand Puel, excusez-moi, à évoquer les variétés que vous nous avez apportées. Vous êtes producteur bio à Chambourcy, Oh oui, je pouvais pas m'en empêcher. Et en attendant, c'est Pauline fait. Labrousse, c'est fait, celle-là elle est de côté. Pauline Labrousse a fait, alors je ne sais pas avec quelle variété, mais une tatin de poire qui n'est pas un dessert. C'est la poire et le fromage dans un même plat.
Ouais, c'est vraiment une manière de rapprocher ces deux éléments qui sont un classique, hein, la poire et le fromage. Qu'on adore tous, enfin beaucoup, cru, parce que un plateau de fromage avec une poire juteuse, que ce soit un Livaro ou un Gorgonzola, si on va plus en Italie, c'est toujours très agréable. Mais en cuit, moi personnellement, je trouve que le fondant des deux, c'est vraiment ça qui fait que c'est addictif au possible. Et donc, la tatin, finalement, se prêtait assez bien à cet exercice du fondant fromage plus fondant poire.
Oui.
Et
mais ça pourrait passer pour un dessert quand même, hein.
Ouais, c'est.
C'est entre les deux.
C'est caramélisé, donc on est proche du dessert et de la tatin classique, mais déglacé avec un vinaigre qui peut être un vinaigre de poire si on a envie de jouer le jeu à fond. Mm-hmm. Ou là, j'ai utilisé un vinaigre balsamique plus classique. Et ensuite, on rapporte le fromage dans la croûte, qui est une pâte brisée assez simple, mais enrichie au pecorino râpé. Et puis, dans laquelle on ajoute également de la sauge. On aurait pu mettre une autre herbe un peu forte comme ça, mm-hmm, pour ajouter une note herbacée, comme du thym par exemple.
Absolument.
De la sauge mixée, pas mal de zeste de citron, du poivre. Il faut vraiment bien assaisonner la croûte pour avoir quelque chose de puissant et qui, mm-hmm, contraste avec le caramel, parce que la tatin, c'est quand même... ce qui est difficile dans la tatin, c'est qu'il faut qu'on continue à sentir le fruit et pas que le caramel finisse par l'emporter sur... sur la saveur principale. Et là, on a envie de manger de la poire. Voilà, donc tout est une histoire de contraste, mais là, je l'ai fait avec de la Guyot, qui, je trouve, pas mal marché, parce que c'est fondant, mais ça garde quand même une tenue.
Définition de la Guyot, variété, s'il vous plaît, s'il fallait faire son portrait robot.
Alors, c'est une poire qu'on connaît pas à Chambourcy, qu'on n'a jamais cultivée. C'est très précoce, mais qui est plutôt du sud de la France.
C'est ça. Fruits vert clair, devenant jaune lorsqu'il arrive à maturité, avec une chair rafraîchissante, mais assez peu parfumée. Donc vous l'avez boosté justement avec toute cette condimentation.
Moi je l'ai trouvé pour le coup assez parfumé.
Assez parfumé.
Et surtout assez aromatique, bien sucrée, bien juteuse. Donc intéressante à caraméliser.
Qu'est-ce qu'on pense de cette tarte tatin de poire, Gerbel, Morin?
C'est très fin, c'est très subtil. Il y a... Voilà, ça caracole côte à côte, à la fois le salé, le sucré, le floral, l'acidité.
Ouais. Il y a une belle harmonie en bouche.
C'est très poire, surtout ça donne une mise en... Ça met la poire au centre du plat. Mm-hmm. Et pour les amateurs de plats pas trop sucrés, dont je suis, j'apprécie particulièrement.
Même c'est vrai que le sucré-salé, c'est compliqué, ça peut vite être écœurant. Pardon,
ouais.
Et donc c'est important de vraiment jouer le contraste quand on est dans ce genre de recette, avec une acidité, le vinaigre et avec la rondeur de quelque chose de salé comme le fromage.
Une pâte boostée à la sauge au pecorino râpé, une espèce de pâte sablée finalement. Enfin, pâte brisée, absolument. Et puis, ces larges poires, en gros quartier, vous c'est en quart ou en demi que vous les mettez sur la...
En demi.
En demi. Donc c'est généreux, il y a de la mâche, c'est charnu. Et vous avez la recette de cette tatin de poire au pecorino, entre la poire et le dessert, on hésite un peu. Signé Pauline Labrousse sur franceinter.fr. À la page, on va déguster la poire à boire. Tout un programme, ça se passe avec Antoine Gerbel.
On va déguster... sur France Inter.
Oh, il était beau celui-là.
Il est joli celui-là.
Vous pourriez,
c'est pas évident avec ces trucs.
Vous pourriez passer dans l'émission Pop 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 d'Antoine Decaune.
Pop Pop Pop,
avec
exactement.
Avec des bruits pareils.
Et puis c'est pas évident parce que j'ai devant moi, comme bien évidemment les auditeurs ne peuvent pas voir, un bouchon en liège,
oui,
qui a fait pop.
Mmh.
Et trois bouteilles bouchées avec des capsules. Parce qu'on est dans cet univers très particulier de la bulle très très délicate du poiré. Alors, le poiré. Alors, on rappelle juste en introduction, François-Régis, vous avez cité le Cotentin, mais...
Enfin, j'ai cité la Manche, mais attendez, j'ai pas tout à fait tort parce que je me suis fait carrément allumer sur les réseaux sociaux. Non, Domfront, c'est dans le département de l'Orne, alors que j'aurais dit Manche. Je parlais de l'appellation du Domfrontais qui, effectivement, déborde sur le département de la Manche.
Exactement.
J'avais pas finalement tout
non,
à fait tort.
Non. Mais Domfront, effectivement, dans l'Orne, mais c'est, alors là aussi, l'AOP,
Poiré Domfrontais, c'est très récent, c'est 2002, donc c'est une aventure très jeune. Pourtant, les poiriers, on va en parler, ils sont là depuis très longtemps. C'est à peu près 40 communes, 3 départements, la Manche, la Mayenne et l'Orne. Mais on va dire que le cœur, vraiment le réacteur du Poiré, c'est Domfront et ses alentours. Ils sont pas très nombreux, hein. Il y a à peu près une quinzaine de producteurs sur cet AOC. Elle fait énormément avancer la production globale, on va dire, de la poire effervescente, puisqu'on trouve bien évidemment du poiré en dehors de ce secteur. Historiquement, il y en a un peu en Bretagne, mais il y en a en Savoie, hein, beaucoup. Et puis, si on sort de nos frontières, la Suède, l'Autriche, l'Angleterre, bien évidemment, le Sussex a toujours été des pays, on parle un peu d'histoire, ou depuis très longtemps, on recherche cette particularité qu'a la poire, parce que on hésite, le consommateur peut hésiter, cidre ou poiré. Ben, c'est comme vin rouge et vin blanc. On va dire que le cidre, c'est plutôt du vin rouge, où il y a ce côté un peu tannique qu'on a toujours un peu sur la pomme et le cidre. Et puis, le poiré, c'est l'acidité, c'est la droiture. Et d'ailleurs, quand on regarde les arbres, ça parle. On n'a pas encore parlé vraiment de la végétation, mais dans cet AOP du Domfrontais, il y a un arbre majeur qui est le plan de blanc, plan oui. PLNT de blanc, qui est un poirier de haute tige, c'est-à-dire que c'est un arbre immense, et dès que vous rentrez dans un pré avec un élaborateur, il vous donne cette phrase que tout le monde répète en permanence, un poirier, c'est 100 ans pour pousser, 100 ans pour produire et 100 ans pour mourir. C'est-à-dire que les poiriers sont les copains du chêne dans tous ces bocages, puisque ce sont des très très vieux arbres. Alors là, moi, avant de vous raconter cette petite aventure de cette semaine que j'ai fait en Normandie, ma première virée, elle était avec un grand personnage qu'il faut absolument citer, c'est Éric Bordelais. Éric Bordelais,
ancien sommelier d'Alain Passard.
Ancien sommelier d'Alain Passard, qui est parti dans ses terres de Mayenne, créer le cidre bordelais et le poiré, dont on trouve vraiment des très belles expressions dans la plupart des grandes tables. Et Éric Bordelais a donné ses classes aristocratiques au poiré, qui était quand même, comme le cidre de fermier, à une production assez locale. Et je me souviens de mes premières virées dans les champs avec Éric Bordelais, où il traversait, il faisait des kilomètres en botte au mois d'octobre pour aller au bout d'un champ où il y avait que des vaches toute l'année, parce que ça c'est important aussi, les vaches au pied des arbres, pour aller récolter ces poires qui étaient au sol, à la main, parce qu'il faut que la poire soit tombée, il faut que la poire ait pris l'humidité, ce petit coussinet d'herbe humide qui va donner, après, quelque chose de très important, c'est la levure naturelle. Parce que on revient sur cette AOP, l'AOP est assez exigeante, donc pas de levure, effervescente bien évidemment naturelle, contrairement, je vous rappelle, à tous les poirets que vous trouvez en grande surface qui sont gazéifiés.
Voilà, donc, carbonique ajouté.
Gaz carbonique ajouté.
À l'alcool.
Des poires qui sont souvent issues de poiriers trop jeunes. Les grands poiriers très anciens et la fermentation naturelle, c'est quand même sur cette AOP de Domfront. Alors l'AOP de Domfront, elle est jeune, elle a pour elle encore quelques beaux arbres. Il faut rappeler qu'en 1999, il y a eu cette terrible tempête qui a fauché énormément de poiriers, parce que le poirier aux tiges, il prend le vent, même s'il a des racines très verticales, contrairement au pommier qui est horizontal, mais il casse facilement, il est très fragile. Et donc il y a eu une perte de poiriers très importante en 99. L'AOP 2002, beaucoup de jeunes ont replanté, il y a eu des aides d'ailleurs européennes, régionales, très importantes, et ça compte beaucoup, mais on est très en deçà de la production qui était dans les années 50-60 de poires. Et donc dans cet AOP, on fait du Domfront, je vous ai amené à Domfront, mais j'ai trouvé un personnage encore plus intéressant, parce que pour moi, le poiré, c'est un peu le vin d'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'on fait l'appellation, on défend l'appellation, et puis il y a des, on va dire, des têtes chercheuses qui essayent d'exprimer autre chose. Et j'étais chez Jérôme Forget. Jérôme Forget, c'est un fils d'agriculteur, éleveur. Son père est éleveur. Il a dit, j'ai beaucoup voyagé. Il a fait à peu près 500 mètres pour quitter la ferme familiale. Il a racheté une autre ferme à côté, mais il a été déjà très voyageur dans sa tête. Il avait envie de faire bouger un peu les lignes. Alors il fait de l'AOP Domfront, et puis après il s'est dit, mais il faut qu'on trouve... On avance en ayant le goût de chaque poire. Alors je vous rappelle qu'il y a plus de 40 variétés de poires dans le secteur de Domfront, donc on n'est pas équipé, personne n'est équipé.
Et qui sont vraiment des poires à cidre et non des poires de table, hein, non des poires à couteau.
Des toutes petites poires, je vous rappelle, c'est très joli. Le plan de blanc, ce sont des grappes de poires. En ce moment, la récolte est magnifique, on peut y aller, c'est la pleine saison. Courez dans le Domfrontais en ce moment, vous allez les voir. C'est des toutes petites poires, très dures, avec une peau épaisse, qu'il faut bien évidemment malaxer avant de la presser pour avoir du jus. Et lui, il s'est dit, je vais, plutôt que de mélanger toutes mes poires, ce qu'on fait, je vais mettre je vais produire du un peu comme du monocépage. Alors, ce que je vous ai mis dans votre premier verre, le petit verre.
Ah, le petit.
Voilà, ça, c'est
vous
le.
Vous l'avez tous.
C'est le premier poiret de Jérôme Forget que j'ai découvert, ça s'appelle Fosset. Oh. Alors, donc, le Fosset, c'est une variété pure, qui n'est, comme il le dit, c'est pas la plus subtile, mais elle est très intéressante parce que, elle me dit, j'ai fait un carton, il me dit, avec ce poiret-là.
Ben justement, petit sondage autour du plateau. Bertrand Puel.
Le petit verre.
Délicieux ?
Non, très bon.
Vous retrouvez les parfums de votre fruit préféré ?
Oui, c'est de la poire, ça c'est sûr.
Pauline ?
Ouais, excellent. C'est doux et en même temps, il y a cette droiture, là, cette acidité qui est agréable.
Alors, avec des notes florales, à propos d'acidité, je vais vous demander maintenant de goûter l'autre verre que je vous ai servi, le verre à pied.
On a plus de tanin, il y a une légère astringence, mais qui est très agréable.
Exactement. Alors là, c'est une autre variété qu'il a mis en avant.
Plus
il a,
sec.
Il a fait ça vino.
Un peu d'amertume, donc, des beaux amers.
Et ça porte bien son nom, je trouve.
Une vinosité.
Une vinosité. J'ai déjeuné avec Jérôme et lui, il m'avait fait un veau et ça passait magnifiquement bien. Alors, voilà, simplement pour raconter cette histoire, il faut aller en ce moment à Donfront. Il y a un musée très sympa. Un petit musée qui a été refait, magnifique, où il y a une promenade où on voit au moins une vingtaine d'espèces de variétés de poires. Donc vous avez de quoi vous promener. Comment le boire ? Toujours très très frais. N'hésitez pas, c'est pas du vin. Le poiret se boit glacé. Quand le boire ? Alors moi, amateur de vin, j'adore finir un repas avec le poiret. Pas forcément sur le dessert. Et alors si vous pensez aux moules par exemple, vous allez voir, faites en ce moment des moules et du poiret et vous allez vous régaler. Et tout le reste des infos, c'est sur le site de France Inter.
Merci beaucoup pour ce voyage dans l'appellation Domfrontais pour le poiret qui s'étale donc sur quel département pour qu'on soit bien au clair.
On répète, Manche, Mayenne et Orne.
Manche, Mayenne et Orne. Merci pour ce très beau voyage et ça fait très envie de boire du poiret. C'est rafraîchissant, c'est automnal, ça nous plaît. Et comme la vie est bien faite, Pauline Labrousse a fait une recette de poire au poiret.
Oui, en fait, j'ai fait une poire pochée que je voulais assez nature et assez brute pour pas ajouter trop de goût. Parfois, on a envie d'égayer les sirops de pochage avec beaucoup d'épices ou des choses corsées comme du vin, etc. Et là, j'avais envie de rester vraiment sur la poire. Et du coup, j'ai fait une recette de sirop assez classique au beurre, en fait, avec autant de beurre que de sucre. Et donc, le troisième ingrédient de ce sirop, c'est du poiret. Qui va amener, casser le sucre, casser le beurre par une acidité et de légères notes amères. Et qui va bien sûr aussi renforcer ce côté poire et qui fait que le dessert au final va être, cette poire en elle-même va à la fois être proche d'un gâteau avec ses notes de beurre et à la fois rester sur cette identité et ce caractère poire qu'on cherche dans une poire cuite et qui est pas facile à garder parce que la poire cuite a parfois tendance à se vider de son goût de poire.
Mmh. Et là, vous renforcez ce goût
là,
avec justement.
On renforce le goût avec avec le poiret.
Quelle variété ?
Quelle variété de poire ?
Oui.
J'en ai fait trois pour essayer trois différentes, une conférence, une William et une poire de curé qui est une poire ancienne.
Donc poire plutôt dure. Pour la pocher.
Poire plutôt dure, ouais, mais toujours avec cette idée qu'il faut absolument une poire goûtue, puisqu'elle va transmettre de son goût au sirop et que donc il faut qu'il lui en reste en elle. Et voilà, donc.
Donc un sirop.
Un sirop, un temps pour temps, autant de poiré que de beurre et
de sucre.
À mettre à fondre. On met la poire dedans quand c'est à toute petite ébullition.
Surtout. Après l'avoir épluché.
Ouais, après l'avoir épluché, entière. Ou couper en deux si on est pressé. Et surtout, ne pas mettre ça sur feu fort, puisque ça va faire éclater le fruit, mais vraiment la laisser tirer dans un sirop qui est à peine frémissant, donc on baisse le feu, voire on l'éteint quand ça bout trop fort.
Combien de temps ?
Et on la laisse entre un quart d'heure et 30 minutes en fonction de la maturité de la poire. On pique avec une pointe de couteau pour s'assurer de la cuisson.
Très bien.
Et voilà.
Poire au poiret, vous retrouvez votre poiret ou pas, Antoine Gerbel ?
Alors déjà, c'est très beau. Ça fait un palais, c'est magnifique. Cette poire coupée en transversale. Et ça, c'est vraiment... Et puis, oui, comme une petite prison. En fait. Comme une petite prison, la peau, elle a durci un peu. Et à l'intérieur, on a tout le côté fondant de la poire.
Alors, ça vous plaît ou pas, Eric ?
Bah, c'est un doudou, hein.
Ouais.
Moi, c'est moelleux.
Je vais profiter d'une petite pause musicale.
C'est la poire entière, ouais.
Pour me prendre cette poire en pleine poire. Ça, en tout cas, c'est très beau, c'est luisant, légèrement. On va vraiment se régaler. Dans un instant, on parle agriculture biologique, évidemment. Et on vous fait découvrir d'autres recettes signées Pauline Labrousse et l'étonnant savoir-faire de la poire tapée. Secouer le poirier, un bon coup de pop funky et psychédélique. C'est les Australiens de Banana Gun avec le titre Out of Reach.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
La poire, au menu d'On va déguster avec Bertrand Puel, notre arboriculteur de Chambourcy, qui est venu avec toute une collection de poires. Vous avez combien d'hectares à Chambourcy?
J'ai à peu près 1,5 hectare, 2 hectares de poirier.
C'est ça. Et alors, il paraît que vous commencez une histoire d'amour avec le PSG. Racontez-nous en un mot.
Le PSG s'installe pas très loin de Chambourcy.
On parle bien du club de foot.
Ouais. Sur le coteau de Poncy. Et c'est un endroit où il y a un grand verger de poiriers. Ils ont voulu le garder. Et donc, je travaille avec eux pour... Enfin, ils ont fait appel à moi pour le convertir en agriculture biologique.
Oui.
Voilà, donc j'ai commencé il y a 3 ans. Le verger, maintenant, est bio. Voilà.
Eh bien, justement, on va parler d'agriculture biologique. C'est quand même incroyable, Bertrand Puel, qui est au service du PSG et ses beaux jardins et ses beaux vergers, notamment de poiriers. Pauline Labrousse est également avec nous au fourneau de Coucou, un super coffee shop du 9e arrondissement de Paris que je vous invite à découvrir. Il y a une bonne ambiance, de très belles choses à déguster, notamment des recettes aussi à base de poire. La poire tapée, je ne sais pas si vous la connaissez, cette vieille tradition de Rivarennes. On est en Indre-et-Loire. Oui, il s'agit bien de taper des poires. Et l'une des dernières entreprises à faire perdurer ce savoir-faire traditionnel, c'est la maison Hérin, avec à sa tête Christine Hérin et son compagnon Sébastien Dagneau. Ils cultivent ensemble leurs propres fruits qu'ils transforment. Notre reporter Stéphane Combe est allé à leur rencontre. On commence par une visite du verger bio en compagnie de Sébastien Dagneau.
On arrive sur une de mes plus grandes parcelles. Elle fait à peu près 2 hectares. Et sur cette parcelle, il y a 2 variétés, des Williams et des Comices. La parcelle est cultivée en bio. Alors, on est en bio, on le remarque, hein, parce que bah, déjà, il y a des fruits qui ont un peu des vers. Notre insecte le plus détesté, on va dire, c'est ce qu'on appelle le carpocaps, ce qu'on appelle vulgairement le carpo. C'est le vert du fruit. C'est le petit vert qu'on va retrouver dans la pomme ou dans la poire. Le souci de ce petit vert, lors de la déshydratation de la poire, il va pas mourir. Si jamais on en laisse un dans le fruit, il va résister à la déshydratation. Là, il n'y aura pas assez de chaleur pour le faire mourir. Et après, le souci, quoi, c'est lors du stockage, il peut se développer, se retransformer en papillon. Et puis du coup, il mange la caisse de fruits, quoi, de sécher. Quoi.
Alors pour les poires tapées,
il ne faut pas énormément des gros fruits. Parce qu'on va enlever l'eau du fruit, donc c'est un peu couillon d'en mettre dedans pour l'enlever après, quoi. Et surtout aussi, nous, ce qu'on veut, c'est un fruit qui reste sucré pour qu'il ait beaucoup de goût, qu'il soit pas irrigué. Pour nous, c'est très bien.
Dans un instant, on va évoquer avec vous, Bertrand Puel, les enjeux du bio dans la culture des poires. Mais tout d'abord, je vous emmène dans la fabrication, dans les secrets de la fabrication de ces poires tapées, du verger bio de Rivarennes à deux pas du château d'Azel-Rideau. On est dans cette magnifique vallée de la Loire. On passe à un drôle de décor. C'est dans des grottes troglodytes que Christine Hérin va entrer en action. Sa spécialité, taper les poires sans leur faire mal. Et tout ce processus commence par le tri des fruits.
Donc là, comme variété de poire, nous avons de la comice. Alors, on prend un certain calibre. Les grosses poires, on va pas les prendre. Celle-ci, elle est bien. Ça, c'est trop petit. Celle-ci.
Je vois que vous les posez hein, dans la caisse, les poires.
Ah oui, c'est
vous
fragile, une poire.
Vous ne les...
C'est comme une fille. De toute façon, la poire tapée, c'est ça. Un tri continuel. Il faut vraiment un certain calibre. Parce qu'il faut pas oublier, justement, que pendant la déshydratation, la poire va diminuer en volume, puisqu'on va enlever l'eau. Donc pour la poire tapée, cette année, on va éplucher 10 à 11 tonnes de poire et on aura à peu près une tonne de poire tapée. Voilà, et ben là c'est bon. Alors pour éplucher les poires, donc nous avons cet outil hein, qui ressemble un petit peu à une machine à coudre. Voilà, on va tourner cette petite manivelle, on va mettre le petit couteau au niveau de la queue de la poire et voilà, ça va s'éplucher tout seul. C'est la machine qui fait tout ça. Et donc là, vous voyez, ben, on reprend et puis on les range comme ça sur les clés.
Alors la clé, hein, je rappelle,
c'est ce grand bâti en bois où on installe eh bien les poires.
Vous les rangez les unes à côté
les
des autres.
Voilà, on les range bien. La queue en bas, toujours la queue en bas, parce qu'autrement pendant la déshydratation, si la queue elle est en l'air, eh bien la queue elle va brûler, donc il faut pas. Et là, vous rentrez dans un des troglodytes de la maison où se trouve un four. Il est chaud, nettoyé. Et donc, comme il est à la bonne température, on va pouvoir enfourner les 9 clés. On enfourne à peu près à 130-140 degrés. On va fermer la porte du four et puis on va laisser une aération de façon à ce que toute la vapeur puisse s'en aller. Le four redescend à 90-95 degrés. Donc demain matin, on va ressortir toutes les clés des fours. On va tourner les poires à l'intérieur des clés parce que la déshydratation elle se passe toujours par le dessus et jamais par le dessous. Et on va donc refaire des chauffes intermédiaires. Et le savoir-faire, il est là parce qu'en fait, c'est à nous d'évaluer tous les jours la déshydratation pour savoir quelle dose de bois on doit mettre. Et lorsque les fruits sont complètement déshydratés, sur les 140 kilos qu'on a mis en fruits frais dans chaque four, il ne restera que 18 à 20 kilos. Parce que tout le reste sera parti en évaporation. Ça, c'est l'outil qui tape les poires. Donc, on l'appelle une platissoire. Alors, c'est vrai que la vraie appellation, ça serait poire platie. Au départ, il tapait soit avec les paumes des mains, soit avec le pouce et l'index. Une poire, on la pose.
Alors, vous la positionnez sur une espèce de petit plateau circulaire et sous le manche, il y a une espèce de...
Une petite presse. On va taper la poire au niveau du cœur. Donc, il reste plus d'air. Donc, le produit va pouvoir se conserver. Il ne risque pas de s'altérer. Et la poire tapée, à ce moment-là, elle est terminée.
On peut déjà la consommer.
Ah oui, vous allez la goûter.
Faut avoir de bonnes dents, hein, ça. Mais c'est bon.
Par contre, c'est énergétique. Et c'est bien pour ça que les marins l'attendaient à l'estuaire. Une déshydratation n'est pas une cuisson. Le fruit est resté cru. Il a gardé ses valeurs énergétiques. Et en la consommant, le marin n'attrapait pas le scorbut. Donc c'était capital. C'était fait pour accompagner des Indes, les Terre-Neuves, les Russes, les Anglais, les Français, bien sûr. Mais c'était fait pour tous les marins qui partaient des mois en mer. Et bien sûr, au niveau du transport, bah là, ça valait le coup, hein.
Parce que c'était beaucoup plus petit.
Bah, c'est beaucoup plus petit, puis c'est vachement moins lourd. Nous, ça nous arrive d'en manger des poires qui ont 18 ans.
La poire tapée de la maison Hérin, notre reporter Stéphane Combe, a d'ailleurs tourné une sacrée vidéo de cette étonnante technique de la... Vous vous souvenez du mot, si vous avez été attentif, de cet instrument qui sert à écraser les poires ? La platissoire. Ça permet de taper la poire pour chasser l'air du fruit afin de le conserver. Et cette vidéo est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. J'ai fait passer
Un petit paquet de poires tapées de la maison Hérin, qu'est-ce que vous en pensez, Pauline Labrousse?
J'aime beaucoup. En fait, c'est un peu le contraire de ce qu'on avait dans la, ce que je disais de la poire pochée qui risque de perdre un peu de son goût. Là,
on a on la concentre.
Ultra forte concentration du goût poire. Et on est proche d'un des fruits séchés, genre figue séchée, pruneau, même petite de notre pruneau. Et en plus, on concentre aussi cette texture un peu grainée de la poire, je trouve, et qui est étonnante. Et du coup,
elle est séchée, quasiment confite, un peu caramélisée. Ouais. Vous aimez ou pas, Bertrand?
Beaucoup.
Vous connaissiez ce savoir-faire?
Non, pas du tout.
Non, ça pas alors. Du tout. On vous apprend un truc. Au producteur de poire.
Oui, mais ça s'est jamais pratiqué chez moi.
Le bio est réputé difficile à appliquer dans l'arboriculture. Vous avez choisi l'agriculture biologique depuis 10 ans. Est-ce que vous êtes embêté, vous aussi, par ce Carpocaps, cette espèce de petit ver qui est le ravageur dans les vergers où on a voyagé avec notre reporter Stéphane Combe?
C'est le plus gros problème de l'arboriculture. Voilà. Autant même en prune, poire, pomme. C'est le ravageur le plus compliqué à combattre. Du coup, on a arrêté de le combattre. Moi, je pratique la confusion sexuelle. On met des phéromones partout dans le verger et là, on le perturbe. Voilà. Il a du mal à s'accoupler. C'est un papillon nocturne qui s'accouple lors des vols nuptiaux qui ont lieu la nuit. Le mâle reconnaît la femelle à l'odeur. On sature le verger d'odeur de femelle,
c'est ça.
Et le mâle ne retrouve pas la femelle.
Mais vous avez quand même, malgré tout, des pertes dans vos productions de poire.
Oui.
Mais vous assumez et vous revendiquez le choix du bio.
Ah, c'est un deal. On fait un deal avec les insectes.
Très bien. Et vous en portez pas plus mal, visiblement.
Non.
On trouve où vos fruits?
Un peu partout, sur les marchés, des gens qui font des paniers,
Beaucoup d'auditeurs nous disent, vous n'avez pas évoqué une variété qui est pourtant peut-être bien l'une des plus connues sur les étals, c'est la Conférence, visiblement d'origine anglaise, elle daterait du 19e siècle.
Oui, c'est la plus récente.
19e, début 20e. Et vous nous la porterez robot en un mot de la Conférence?
C'est une poire très longue, alors très résistante. L'arbre produit bien. C'est très sucré. C'est peu juteux. C'est pas très très parfumé. Elle est pas fondante, mais elle est assez facile à cuisiner.
La Conférence, elle vous...
Ouais, il faut.
C'est lui,
il faut
Pauline Labrousse.
Oui, mais il faut juste l'acheter au bon moment. C'est-à-dire que souvent, on en a des trop dures parce qu'elles sont pas encore à pleine maturité, mais c'est compliqué puisqu'elles sont, elles mûrissent au fur et à mesure, si j'ai bien compris, dans les caves.
On parlait arboriculture, un sigle agricole s'est invité dans le débat public depuis quelques semaines, HVE comme haute valeur environnementale. Notre avocat gourmet Éric Morin nous aide à y voir plus clair. Voici sa plaidoirie.
Sur France Inter, on va déguster.
Attention, terrain glissant, sujet miné, débat explosif, ça tire à balles réelles autour de ce label, ou plutôt cette certification récente, elle date de 2014, appelée HVE, haute valeur environnementale. La récente publication d'un rapport commandé et financé grâce à un crowdfunding par l'association bordelaise Alerte aux Toxiques a mis le feu aux poudres cette semaine. 22-20, revendiquant le label HVE, se retrouve avec des traces de résidus de pesticides et autres joyeusetés de synthèse détectées par un laboratoire agréé COFRAC. Le front du débat, où chacun accuse l'autre d'exagération ou de fake news, et où même le laboratoire en question s'est senti obligé de réagir, rompant ainsi son devoir de neutralité et d'indépendance, faut dire qu'il fait aussi beaucoup de conseils œnologiques, ce débat donc m'importe finalement bien moins que l'origine de cette norme HVE qui a été initiée par le Grenelle de l'environnement.
Drôle de nom quand même, HVE, c'est pas super sexy?
Bah mon Dieu, oui, on dirait un haut commissaire au plan. Alors, n'oublions pas que nos labels sont destinés avant tout aux consommateurs, et pour le dire clair et net, à lui vendre un produit paré, ou censé être paré, de 1000 vertus. Et qu'est-ce qu'on lui vend au travers de cette dénomination? Eh bien, rien de moins que le top du top de la haute valeur, monsieur dame. Il n'y a pas plus haut, c'est du sommet garanti, c'est l'Everest de nos valeurs. On y a mis tout notre cœur. Bref, il ne peut pas y avoir mieux, puisque c'est écrit dessus, haute valeur environnementale. Alors pour ceux qui ne veulent pas faire du bio et être certifiés AB, pourtant plébiscité par les consommateurs, On parlait avant d'agriculture raisonnée, qui en réalité était tout sauf raisonnée. Mais comme la raison, c'est pas vendeur, il a fallu trouver autre chose, et de préférence du rêve. Parce que le rêve, ça se vend, et bien, et mieux. Et du coup, HVE, un succès dans la filière agricole d'abord, fruits et légumes en tête, puis s'est développé dans le secteur viticole. Et surtout où ? Eh bien dans le Bordelais et dans la Champagne, deux régions bien connues pour ne pas être les plus vertueuses en matière d'utilisation de pesticides. De là à parler de greenwashing, il n'y a qu'un pas que certains franchissent.
Et puis Éric Morin, il n'y a pas que le nom HVE qui est un problème visiblement, il y a aussi les critères d'obtention figurant dans les cahiers des charges.
HVE niveau 1, HVE niveau 2, HVE niveau 3, option là, A, HVE
il vient
niveau
déposer
3,
à peu près
option B. Je vous ai tout apporté ici, c'est à lire sur le site de l'émission. Attention, prenez une aspirine avant. Alors un des traits de ce label, c'est l'accent mis sur le développement de la biodiversité. Certes, mais pour le reste, c'est un régime principalement déclaratif, l'organisme certificateur pouvant se contenter d'une vérification sur le terrain sur seulement 10% de l'exploitation, certains points de contrôle étant validés au terme de, je cite, une discussion avec l'agriculteur, et l'accès à la plus haute certification HVE3 est lié à un ratio entre le montant d'achat de pesticides et le chiffre d'affaires.
Oula.
Donc si vous pouvez présenter un bilan où les charges d'achat de produits de synthèse ne dépassent pas 30%, c'est quand même énorme, hein, 30%,
et oui.
Ça peut donc aller jusqu'à 30%, alors c'est bingo, vous pouvez être HVE. La défense de l'environnement, c'est un chemin. Chacun y va à son pas qu'il faudrait sans doute accélérer un peu, et tous les jours la nature blessée nous le rappelle. Chacun fait comme il peut et je ne porte aucun jugement. Mais la norme HVE comme aboutissement et fin du chemin pour vendre soi-disant plus vert aux consommateurs, c'est non. Ou alors c'est se prétendre alpiniste alors qu'on est juste monté en haut de la butte Montmartre. La norme HVE, c'est une étape en randonnée, un camp de base dans une ascension, sûrement pas la fin de l'aventure, et surtout pas au prix de nous faire prendre des vessies gonflées d'intrant pour des lanternes vertueuses.
Le HVE qui serait finalement une étape dans une ascension vers le bio, et le bio on serait la finalité. Est-ce que vous avez un avis sur le HVE, Bertrand Puel?
Non, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais
vous êtes bien le seul.
Mais il y en a plein. Il y en a plein, chacun y va de son petit logo. Enfin, il y a une grande confusion, en fait.
Le HVE a beaucoup de succès dans la viticulture aussi, Antoine Gerbel.
Dans les grosses productions, c'est ça surtout, parce que la moins de 10 hectares, on est en bio, mm-hmm. On passe en bio. Par contre, quand on a effectivement 30, 40, 50 hectares, ben voilà, HVE, on va dire que le comptable aime bien.
Voilà, on est au milieu du guet avec le HVE. Il y a des efforts, mais certains observateurs considèrent que ça ne va pas assez loin. On vous laisse réfléchir à ce débat, notamment à l'appui de tous les documents très épais posés comme ça sur notre plateau qu'a mis en ligne Éric Morin. On finit par une petite note un peu liquide.
Ouais, difficile d'avoir une émission sur la poire sans parler de poire. Je vous en ai apporté une du domaine Valentin Zusselin, vigneron à Orgevire. C'est une poire William. Alors, la poire, c'est un fruit difficile à distiller, je l'ai appris, parce que difficile à fermenter par manque d'acidité. Donc, beaucoup de distilleries rajoutent de l'acide sulfurite ou des levures par manque pour augmenter le pH. La clé, c'est de récolter un fruit à maturité. Là, c'est un fruit de 2016, il a passé 4 ans en Dame Jeanne. Il y a zéro intrant, zéro acide sulfurique, zéro levure. C'est de la poire dans un verre.
Et quelle explosion d'arômes quand on met le nez dedans. C'est vraiment, ça fait souvent avec les bonnes poires.
La pureté, surtout.
Et la pureté, le côté cristallin.
La poire d'il y a 40 ans était un peu spectaculaire, un peu grasse. Aujourd'hui, mm-hmm. Il se distille avec énormément de pureté. C'est ça qui est magnifique.
Domaine Valentin Zusselin, ils sont absolument formidables. Vous avez les coordonnées sur le site.
Une poire, William, deux compétitions. On arrive au terme de cette émission. Le temps d'évoquer en un mot les deux recettes qu'on va déguster après le générique, chère Pauline. Il est à faire notamment aussi d'alcool.
Ouais, j'ai fait une poire flambée au gin. Voilà, qu'on va servir avec le sirop de flambage sur une brioche feuilletée. Mm-hmm. Et puis une tempura de poire à la livèche.
Très étonnant.
Avec une sauce soja citron vert qui contraste avec la richesse de la friture. Une
splendide.
Petite acidité salée, tout ça.
On va déguster ça avec vous, chère Pauline. Merci pour ces recettes qu'on retrouve sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et on retrouve votre superbe cuisine très agile chez Coucou. Allez-y, c'est un coffee shop 14 rue Bauchard de Saron, 9e arrondissement. Merci Bertrand Puel d'être venu par le studio dont on va déguster. La semaine prochaine, on explore le grand retour de la cuisine vapeur. Et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec cette technique de cuisson douce et saine. Il y aura Jennifer Hartsmith, pâtissière naturopathe, et le cuisinier Stéphane Gabrielli, Elvira Masson et Dominique Hutin seront dans le fauteuil des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim!